Radio Okapi.
Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre journal. Voici les informations importantes de ce jour. La ville de Bukavu, au sud Kivu, est plongée dans le deuil depuis l'occupation par le rebelle du M23 AFC et leurs alliés. C'est dimanche, la population de la commune de Kadutu s'est réveillée sous le choc après le meurtre d'un jeune garçon la nuit dernière. En signe de protestation et de désarroi, les habitants ont défilé dans les rues avec le corps de la victime. Le ministre provincial du Tanganyika ont présenté publiquement les actions réalisées depuis leur entrée en fonction. Cet exercice démocratique réalisé 6 mois après l'entrée en fonction des membres du gouvernement provincial avait pour objectif de rendre compte et d'informer la population sur leur réalisation. Territoire de Djougou, province de l'Ituri. Affrontement récurrent entre les troupes de l'armée ougandaise et la milice Kodeko dans la région de Fataki. Ces conflits armés accentuent les tensions entre certaines communautés locales. Michel Meta, président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, nous éclaire sur la situation dans un entretien exclusif avec Radio Okapi. C'est tout pour le titre. Gisèle Cage vous présente ce journal. La ville de Bukavu continue de connaître des tueries nocturnes dans divers quartiers. En moins de 48 heures, 3 personnes ont été tuées, soit par balles, soit par vindictes populaires dans les communes de Kadutu et Ibanda. Le point avec Jacques-Yves Molima.
Ce dimanche, la population du quartier Nyamugo dans la commune de Kadutu s'est réveillée sous le choc à la suite du meurtre la nuit d'un jeune garçon sur son chemin de retour à domicile. La population a manifesté avec le corps dans la rue. Des tirs de sommation ont dispersé les manifestants et le corps de la victime conduit à la morgue de l'hôpital général de référence de Bukavu, selon la chef de quartier. Toujours dans la même nuit de samedi à dimanche, une autre personne, présumée voleur, a été lynchée sur l'avenue Rosizi au quartier Ndendere dans la commune d'Ibanda. Son corps a été brûlé en plein air. Et la veille, dans une autre avenue de la ville, au quartier Nkafu, encore une autre personne attrapée en flagrant délit de vol a subi la vindicte populaire.
Quittons le sud Kivu pour le nord Kivu. L'aéroport international de Goma reste fermé 2 mois après l'occupation de la ville par le rebelle de l'AFC M23. Plusieurs sources indiquent que des travaux de déminage ont commencé il y a quelques jours, ce qui pourrait constituer la première étape vers une réouverture probable. Le point avec Marcel Ngombo.
Le tarmac est la première étape où le nettoyage ou déminage est effectué. Il consiste à la détection et à la destruction des engins explosifs disséminés sur le site. Cependant, d'autres mines jonchent encore les sols aux alentours, vu l'ampleur des affrontements ces jours-là. Ce qui demeure une sérieuse menace, rendant ainsi impraticable l'accès à la piste. Pendant ce temps, la tour de contrôle, le poumon de toute opération de navigation, quant à elle endommagée, reste non opérationnelle. Si bien que le déminage constitue une étape importante dans la réhabilitation de l'aéroport international de Goma qui nécessite des réparations de grande ampleur pour sa fonctionnalité et pour assurer la sécurité des vols, estime un spécialiste en matière aéronautique. Le dégât causé par cette guerre étant considérable, tour de contrôle saccagé, infrastructures endommagées et bureaux pillés, pour l'instant, l'incertitude plane toujours quant à la reprise des vols.
Nord Kivu toujours, les enseignants d'au moins 4 subdivisions du territoire de Rutshuru expriment leur mécontentement face au non-paiement de leur salaire pour le mois de février et mars. Ils jugent inacceptable de ne pas avoir encore perçu leur rémunération alors que le gouvernement a assuré avoir pris les dispositions nécessaires pour leur paiement par la Caritas via Mobile Money. Ces enseignants affirment avoir accompli toutes les formalités requises pour le transfert de leur salaire par cette nouvelle voie compte tenu de la fermeture des banques à Goma. Les autorités scolaires provinciales appellent les enseignants à la patience, assurant qu'une solution est imminente. Les détails avec Jacques-Yves Molima.
L'incompréhension règne chez les enseignants de Rutshuru. Si le gouvernement a fait le nécessaire, pourquoi la Caritas tarde-t-elle à payer leur salaire? 2 mois impayés, c'est trop, confie l'un d'eux sous anonymat.
Alors que le directeur chargé de suivi Paix Kinshasa fait savoir que le gouvernement a déjà fait sa part. Nous avons complété les fiches déjà 1 mois sans suite. Nous sommes délaissés. Raison pour laquelle Nous, enseignants, territoire de Rutshuru, nous vivotons. Nous ne savons plus à quel sens se vouer. Déjà 2 mois, bientôt 3 mois impayés, alors que les autorités ont déjà fait leur part.
En réponse à ces préoccupations, le directeur de la province éducationnelle du Nord Kivu 1 explique que l'équipe de la Caritas était en mission à Inongo. Désormais de retour à Goma, la priorité est la finalisation des paiements par mobile money pour les enseignants de Rutshuru et Masisi. Luc Baweza ajoute que la BOA et Access Bank, chargées du paiement des enseignants de Goma et Nyiragongo, paieront également via Mobile Money. La procédure est en cours et ce responsable précise que des notifications ont déjà été envoyées à certains enseignants.
Je le disais dans le titre, le ministre provincial du Tanganyika se sont engagés à rendre des comptes. Ils ont présenté publiquement les actions réalisées depuis leur entrée en fonction. Cet exercice démocratique de 2 jours s'est achevé hier samedi à Kalemie. L'objectif était de rendre compte et d'informer la population sur les réalisations du gouvernement provincial du Tanganyika. Paulin Munanga nous fait le point.
8 ministres provinciaux du Tanganyika ont répondu à cet exercice démocratique de redevabilité. Ils présentent devant la population les rapports détaillés des actions qu'ils ont réalisées depuis la prise de leurs fonctions. C'est le cas du ministre provincial de la Santé, Action humanitaire et Affaires sociales. Il fait un état des lieux des grandes réalisations et des perspectives de son ministère. Il souligne aussi la nécessité d'augmenter le nombre de médecins spécialistes dans la province. Celui des infrastructures évoque les grands travaux en cours dans la province. En outre, il signale la réhabilitation de la voirie urbaine à Kalemie et les travaux d'asphaltage reliant Kalemie à Manono. Signalons que le gouverneur du Tanganyika a annoncé cet exercice de redevabilité lors de la présentation de son plan d'action provincial défendu devant les députés provinciaux. Christian Kitungwa précise que cette rencontre est une occasion pour avoir une idée sur les réalisations, les réformes, les défis et l'état des lieux de la gouvernance provinciale. Cet exercice démocratique se réalise 6 mois après l'entrée en fonction des membres du gouvernement provincial du Tanganyika.
La population de la province du Kwilu n'a pas encore vu les résultats attendus de ses élus provinciaux depuis le début de cette législature. Cela est dû à l'absence d'un bureau définitif au sein de l'Assemblée provinciale suite à l'annulation des élections à Massimanimba pour fraude électorale. Les députés provinciaux sont donc invités à se mettre au travail sans distraction afin de rattraper le temps perdu pendant plus d'une année. Cette déclaration a été faite par Claude Kumpel, le nouveau président du bureau définitif de cet organe délibérant vendredi lors de la séance plénière au cours de laquelle ce bureau a été élu et installé à Bandundu-Ville. Le point avec Irène Mboma Luzolo.
Prenant la parole pour son discours après avoir été installé comme nouveau président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Claude Kumpel, élu du Djofa, a tout d'abord exprimé ses sentiments de joie avant de remercier ses électeurs. Ensuite, il a entre autres déclaré ce qui suit.
Notre bureau est appelé à travailler durement pour récupérer le temps perdu. Nous avons aujourd'hui notre responsabilité historique d'apporter nos valeurs à la reconstruction de notre province. Il est donc temps de se mettre au travail au lieu de se laisser distraire. Nous devons être rigoureux envers nous-mêmes en exécution avec conscience le travail pour lequel notre population nous a élus. Parce que jusqu'à ce jour, notre Assemblée n'a pas répondu aux attentes de notre population, faute d'une mise en place à temps du bureau définitif de notre organe délibérant. Ce ne sont pas des excuses, mais ce sont des faits vrais. Nous devons donc nous mettre au travail, car, dit-on, le travail assure l'indépendance. Le travail, rien que le travail.
Enfin, la session extraordinaire inaugurale ouverte depuis plus d'une année par le président du bureau d'âge Oscar Nsaman a été officiellement clôturée vendredi par le président du bureau définitif. Irène Mboma, Bandundu-Ville, Radio Okapi.
Sylvain Mutombo, coordonnateur de la majorité extra-parlementaire et ancien ministre délégué à la Défense, recommande un changement total du gouvernement à l'issue des consultations politiques en cours. Après leur échange vendredi avec le conseiller spécial du chef de l'État, les représentants de tous les regroupements politiques non institutionnels souhaitent que les futurs gouvernements soient composés des membres préalables a accepté des sacrifices, tout comme les victimes des affres de la guerre de l'Est du pays. Un accent doit être mis sur la réduction du train de vie ainsi que sur les volumes de ce gouvernement. Écoutons Sylvain Mutombo au micro de Billy Yvan Lutumba.
Ce gouvernement que nous voulons n'est pas un gouvernement des hommes ordinaires. Nous voudrions un gouvernement réduit à 45 ministres pour répondre à la question du chef de l'État liée à la réduction du train de vie des institutions de la République. Afin d'être dans le même diapason avec nos populations de l'Est qui doivent nous voir, nous tous, faire des sacrifices. Ce gouvernement ne se limitera pas seulement à faire la guerre et à terminer la guerre, mais doit s'assigner aussi d'autres missions pour accompagner la guerre. Donc une armée de guerre, une armée professionnelle, une armée industrialisée, une armée de production. Bien entendu, avec les services de sécurité renforcés, avec le projet de service national renforcé dans toutes les 26 provinces pour que nous puissions avoir un véritable commandement qui pourra amener le commandant suprême à avoir des gens sérieux qui vont agir pour être différents de ceux dont nous avons connu.
Dans le territoire de Béni au Nord Kivu, au moins 15 cas de rougeole ont été signalés au cours du premier trimestre à l'orphelinat Tukinge Yatima, situé au poste frontière de Kassindi-Lubiria, dans la zone de santé rurale de Mutuanga, selon Desange Malero, la responsable de cet orphelinat privé. La maladie risque de prendre une tournure inquiétante en raison de la promiscuité dans ces centres qui hébergent environ 500 enfants. Elle précise que les malades sont pris en charge par une équipe de médecins qui malheureusement fait face à une pénurie de médicaments. Elle plaide pour une assistance du gouvernement congolais et des ONG humanitaires pour faire face à cette situation. Desange Maliro est jointe au téléphone par André Kitenge.
Ici à l'orphelinat Tukinge Yatima, il y a le problème de la rougeole. Et ça vient de dire, en tout cas au moins un mois et demi, il y avait une fille qui a commencé. Quand je suis allé chez Mundama, ils ont confirmé que c'est la rougeole. Après lui, l'autre. Ça devient vraiment une répétition. Au total, aujourd'hui, c'est 15 qui sont atteints de la rougeole. Au lit, ils donnent au moins 3, bien 4. Alors si l'une est atteinte directement, les 3 là, et aussi ils seront atteints. C'est pourquoi, pour honorer vraiment les factures, ça devient un problème. Et c'est pourquoi moi je demande au gouvernement de renforcer les médicaments à l'hôpital général, à l'hôpital la Kassindi, au Bibaché, de renforcer les médicaments. Parce que quand on arrive là-bas, on donne les médicaments. Mais il y a des maladies, parce que ce sont des centres qui reçoivent des pauvres, là où il y a la gratuité. Donc il faut le gouvernement et les ONG qui se chargent des médicaments, Médecins sans frontières, UNICEF, Tukinge Watoto, Croix-Rouge, de renforcer les médicaments au niveau de l'hôpital général qui reçoit les opprimés, les pauvres.
La solution pour résoudre la crise sécuritaire qui secoue l'Ituri passe par la prise de conscience des filles et fils de cette province afin de mettre fin aux violences. C'est ce que pensent les femmes de différentes entités des Djougou et Irumu. Elles ont exprimé cette opinion lors de la journée de vulgarisation des droits de la femme et de la jeune fille organisée vendredi par la section genre de la MONUSCO à Bogoro, située à 25 km de Bunia. Pour ces femmes, il est temps de revenir aux bonnes relations prônées par les ancêtres dans le cadre de la cohabitation pacifique. Jean-Claude Loki Dile nous fait le point.
Ce sont plus de 100 femmes venues des entités de Walendu Tati, Walendu Bindi et Bema Sud qui ont pris part à cette activité à laquelle se sont jointes des autorités coutumières locales. Bien avant cet échange, elles ont ensemble exhibé des danses traditionnelles à travers lesquelles chaque communauté a passé des messages de paix, comme l'explique cette dame originaire du secteur de Walendu Tati. Ce ne sont pas des étrangers qui vont ramener la paix durable chez nous, non. Si ce ne sont que nous-mêmes, même si on ramène l'armée ougandaise comme c'est le cas actuellement, la solution passe par nous tous, Congolais, pour restaurer la paix. Le vivre ensemble est l'une des valeurs qui caractérisait nos ancêtres qui vivaient en harmonie avec les populations des autres entités, martèle une autre dame, issue cette fois de la communauté des Bahama Sud.
On vivait dans la cohabitation pacifique. Nous voulons encore que ces habitudes continuent jusqu'à présent, que l'amour revienne encore.
Le chef du bureau de la MONUSCO en Ituri, qui a pris part à cette rencontre, a encouragé les habitants de l'Ituri à mettre de côté leur ego pour donner la chance à l'Ituri de se développer au regard des richesses dont regorge cette province. De retour de Bogoro, Jean-Claude Loki Dile, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Gabon, la campagne pour la présidentielle du 12 avril 2025 a démarré hier samedi. Bien que tous les candidats n'aient pas encore jeté leurs forces dans la bataille, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a rassemblé ses partisans lors d'un meeting dans un stade de Libreville. Les gradins étaient remplis pour accueillir le président de la transition qui est arrivé sur scène accompagné de son épouse Zita et de leurs enfants. Après quelques pas de danse, Brice Clotaire Oligui Nguema a énoncé ses promesses de campagne. Nous poursuivrons notre lutte contre le chômage. Nous achèverons les travaux de la Transgabonaise. Nous relierons toutes les capitales provinciales par des routes bitumées et nous continuerons à transformer nos matières premières sur place. Incendie en Corée du Sud. Ce dimanche, les autorités sud-coréennes ont annoncé que la police enquêtait sur un homme suspecté d'avoir provoqué le feu des forêts le plus meurtrier de l'histoire de la Corée du Sud. Dans le sud-est du pays, plus d'une dizaine de foyers alimentés par des vents forts et des conditions sèches ont ravagé environ 48 000 hectares de terrain depuis le week-end dernier, avec un bilan de 30 morts, soit le pire incendie jamais enregistré dans le pays, tant en termes de surface touchée que de bilan humain, selon le ministre de l'Intérieur. Les flammes ont également détruit plusieurs sites historiques tels que le complexe du temple de Goussa dont la construction remonte au 7e siècle. Les enquêteurs suspectent un homme de 56 ans qui pourrait avoir déclenché la catastrophe le 22 mars dernier.
L'invité.
La situation sécuritaire se dégrade chaque jour davantage dans le territoire de Djougou. Depuis que les troupes de l'armée ougandaise combattent la milice Kodeko dans la région d'Ifataki, les tensions entre certaines communautés du territoire de Djougou se sont intensifiées. Le président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, Ounadi, appelle les communautés au calme. Michel Meta revient sur la situation dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar. Notre invité.
Michel Meta, bonjour.
Bonjour.
La crise sécuritaire dans le territoire de Djougou a tendance à se transformer à une crise communautaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, avant d'adresser mon message comme président de toutes les communautés de l'Ituri, il fallait vous rappeler que la violence dans la province de l'Ituri où les tensions ont commencé bien avant, avec l'avancée de M23 à un moment donné, et puis la présence de UPDF, leur entrée dans la ville de Bounia, et aussi leur entrée dans les territoires de Maghi a créé effectivement une tension. Vous avez vu des messages de certaines communautés qui... Les uns ont écrit, les autres ont répondu. Et ça veut dire que ça crée déjà ces petits soucis-là entre les communautés.
Il y a quelques semaines, l'UNADI, vous avez organisé un dialogue intercommunautaire. Quel en était le résultat?
Nous avons organisé un pourparler entre les Ituriens. Et ce pourparler ne prenait pas toutes les communautés de la province de l'Ituri. On avait plus focalisé l'attention dans les territoires de Djougou en prenant plus les communautés qui sont directement en contact avec les violences dans les territoires de Djougou. Et c'est dans ces quatre-là qu'on avait tenu cette activité pendant 2 jours, le 3 et le 4. Et le contenu de ces rapports existe. Je pense que c'est un rapport encore partiel parce que l'une des communautés s'était retirée, avait évoqué certaines raisons. Par exemple, la neutralisation de tous les groupes armés dans l'ensemble de la province. Il y avait une commission ad hoc qui a été constituée. À la fin, ils ont accepté de rentrer sur la table de pourparler et que nous allons continuer le travail.
Alors, vous avez évoqué une certaine tension entre quelques communautés de Djougou où effectivement il y a depuis quelques semaines des combats permanents entre UPDF, l'armée ougandaise et une milice locale. En tant que président de l'UNADI, quel message vous adressez à toutes ces communautés-là, mais aussi d'une manière générale à toutes les communautés de l'Ituri par rapport à cette tendance?
Je crois la première des choses, il fallait d'abord condamner ces violences qui se vivent dans le territoire de Djougou et particulièrement à Fataki. C'est ce qu'ils n'avaient pas souhaité et que de l'autre côté, il faut voir aussi la présence de UPDF, leur entrée avait posé déjà un problème. Et nous avions demandé à ce temps que le gouvernement, soit national, soit provincial ou soit l'armée, puisse communiquer sur l'enjeu clair de cette mutualisation de forces. Ça n'a pas été fait. Et voilà, nous nous retrouvons devant un incident à Djougou, En même temps, nous sommes en train de demander qu'on puisse neutraliser tous les groupes armés pour que toute la population de l'Ituri retrouve son calme. Alors, tous ces éléments ont créé trop de problèmes. Nous avons reçu le commandant,
le chef d'état-major
général adjoint en charge de renseignement et des opérations, qui est en train de faire un travail avec toutes les forces vives, travailler pour éclairer la lanterne de la population. C'est sur ce point que nous demandons à la population d'être calme, de donner confiance à notre gouvernement à travers notre armée. Je crois que nous devons continuer à soutenir notre armée et toutes les options qu'ils prennent pour l'intérêt de notre population, nous devons appuyer ces initiatives. Le moment est venu pour que l'armée prenne le dessus sur les groupes armés et que chaque groupe armé comprenne que ils ne peuvent pas protéger leur communauté, c'est plutôt l'État qui peut protéger les communautés. C'est l'État qui a le monopole de la violence légitime. Ça veut dire que personne ne peut prétendre prendre l'arme pour protéger sa famille, ses enfants, ses frères, c'est inacceptable.
Pour terminer, Michel Metta, quel message à ces communautés qui lancent des messages ou des déclarations quelquefois à tendance provocatrice?
Je l'ai dit au départ, ce qui est très important pour nos communautés de l'Ituri, c'est d'abord construire cette unité et cette cohésion, on sait, de nous tous qui sommes peuple de l'Ituri. Et le deuxième élément, ce sont les groupes armés qui vivent dans nos communautés. Ces groupes armés ne doivent pas aussi prendre les communautés comme leur béquille pour faire le bêtise. Nous devons construire la paix maintenant pour la province de l'Ituri.
Michel Metta, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Michel Metta, président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, s'est entretenu avec Sadiki Aboubakar. C'est la fin de notre journal de ce jour. Merci à Debs Vita pour la mise en onde et à Jacques Yves Molima pour la coordination. Je suis Gisèle Cage et ce fut un plaisir de vous informer ce week-end. Nous vous remercions de votre écoute et vous invitons à partager vos commentaires et questions sur nos plateformes forme en ligne. Vos opinions, en tout cas, comptent pour nous. Restez à l'écoute de Radio Capi pour des débats, des interviews et des émissions spéciales. Passez un excellent dimanche et à très bientôt.